En général, quand on souhaite aux gens un meilleur vœu, les gens vous disent toujours, surtout la santé, hein. Alors, en général, je réponds la santé de l'âme et du corps. Oui, oui, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Très bien. Ça va bien sans le dire, mais ça va mieux en le disant. Alors, nous continuons notre étude des mystères de la vie de notre Seigneur en abordant justement une partie des questions qui entoure la naissance de notre Seigneur. Alors, comme toujours, ça va être un petit peu difficile, parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on essaie de traiter en peu de temps. Et puis, le style de saint Thomas d'Aquin, c'est toujours un style qui a l'avantage d'être clair et concis, mais en même temps, il utilise un langage qui est un petit peu parfois philosophique ou théologique. Donc ce sont des termes auxquels vous n'êtes peut-être pas très habitué. Et puis comme il a un esprit aussi très limpide, il donne tous les arguments sans s'étendre dessus, en ne faisant que les citer. Alors on passe très facilement d'un argument à l'autre, et c'est pour cela qu'il faut essayer d'avoir un esprit assez vif pour pouvoir essayer de tout saisir. Mais heureusement, si vous n'avez pas tout saisi dans une question, dans un article, l'avantage qu'il y ait plusieurs articles, c'est de dire, bon, celui-ci, j'ai pas compris, c'est pas grave. On va attendre le suivant, en espérant que ça ira mieux, quoi. Et puis, quand bien même vous n'avez pas le succès pour la deuxième ou troisième fois, on peut espérer, comme il y a moins une vingtaine d'articles, que sur les 20 articles, vous arriverez vers la fin à essayer de prendre le train en marche. Alors, première question qu'on va aborder ce soir, la question de la circoncision. Donc la question que se pose saint Thomas, est-ce qu'il était nécessaire que notre Seigneur soit circoncis? Alors, comme toujours, deux séries d'arguments. Premier argument, l'argument d'autorité, qui est un argument tiré de la Sainte Écriture et qui est l'argument le plus fort. Il convenait que notre Seigneur soit circoncis parce qu'il est écrit, et donc, en l'occurrence, lorsqu'arriva le huitième jour auquel devait être circoncis l'enfant. Saint Luc, chapitre 2, verset 21. Donc c'est là l'argument le plus fort. Mais ensuite, à cet argument d'autorité vont s'ajouter quelques arguments de convenance qui montrent que le plan de Dieu n'est pas un plan arbitraire, mais que c'est un plan qui est raisonnable. Alors, voici les raisons donc de convenance pour lesquelles le Christ a dû être circoncis. Tout d'abord, pour montrer par là qu'il avait une chair humaine, pour qu'on puisse exercer sur lui la circoncision, il fallait que ce ne soit pas simplement une apparence d'homme, mais qu'il avait bien donc un corps sensible, palpable. Ensuite, pour montrer que la circoncision était une institution divine, dans la mesure où il a voulu suivre cette coutume, cette loi, c'est parce que c'était Dieu qui l'avait établi. Ensuite, pour montrer qu'il était de la race d'Abraham, puisque c'était depuis Abraham que cette circoncision avait lieu. Ensuite, pour montrer également qu'il obéissait à la loi, et donc pour nous apprendre aussi à obéir à sa loi. Et surtout pour montrer qu'il en prenait sur lui le fardeau afin de nous en décharger. Notre Seigneur obéit à la loi ancienne, la loi de l'Ancien Testament, dans le but de nous décharger de cette loi qui était purement matérielle et de la remplacer par une loi plus spirituelle, plus profonde. Et alors, dans les réponses aux objections, on va approfondir une autre question qui est pourquoi notre Seigneur devait-il être soumis à cette loi de cette circoncision qui pouvait laisser supposer qu'il était pécheur. Et en effet, normalement, cette circoncision était considérée chez les Juifs comme étant une purification. Donc s'il y a une purification, c'est qu'il doit y avoir eu une faute, c'est qu'il doit y avoir eu un péché. Or, notre Seigneur n'était pas pécheur. Donc, apparemment, dit saint Thomas, dans les objections qu'il pose, notre Seigneur ne devait pas être circoncis, puisque la circoncision suppose une souillure, et que notre Seigneur était sans souillure. Et cette réponse, en fait, nous est donnée à partir des pères de l'Église, qui nous expliquent que si notre Seigneur est venu sur la terre, il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous racheter. Et pour pouvoir exercer sa mission de sauveur, il ne suffisait pas qu'il prît une nature humaine comme la nôtre, mais il fallait encore que cette nature eût la marque du péché. C'est saint Augustin qui le dit. Pour sauver des pécheurs et des coupables, il fallait un homme juste. Mais un juste sur qui put tomber la malice et la malédiction qu'entraîne le péché. Donc, en qualité de sauveur, il était nécessaire que notre Seigneur fût juste, mais en qualité de médiateur, en qualité d'intermédiaire entre Dieu et nous, en tant que représentant les hommes auprès de Dieu, il fallait qu'il ait sur lui l'apparence du péché qu'il venait expier. Et c'est ainsi qu'il a pu attirer sur lui les châtiments de Dieu. Et c'est là sans doute le sens de cette parole de saint Paul qui disait « Lui qui n'a pas connu le péché, il s'est fait péché pour nous. » C'est ce que dit saint Paul. « Lui qui n'a pas connu le péché, il s'est fait péché pour nous. » C'est-à-dire, lui qui n'a pas connu le péché, il a paru devant Dieu comme s'il fût le péché lui-même. On n'a pas dit « il s'est fait pécheur », mais « il s'est fait péché ». C'est-à-dire qu'il a dû porter sur lui la marque du péché, et cette marque du péché, c'est justement la circoncision. Et par ailleurs, dans les objections, saint Thomas va préciser encore, en disant que, tout en se soumettant à la loi ancienne, notre Seigneur établit la loi nouvelle. Et cette loi nouvelle n'est plus une loi de la chair, mais une loi de l'esprit. Par conséquent, si dans l'Ancien Testament il y a eu cette circoncision de la chair, cette circoncision va faire place dans le Nouveau Testament à une circoncision de l'esprit, une circoncision spirituelle. Et cette circoncision spirituelle consiste à retrancher de notre vie toute affection déréglée. Et là, c'est ce que dit saint Paul dans son épître aux Romains, au chapitre 2, verset 29. Donc la circoncision dans l'Ancien Testament, selon le plan de Dieu, n'était que la figure, que l'image de la circoncision que notre Seigneur réclame de nous aujourd'hui. Alors, on va regarder, juste en peu de mots, quelles étaient les marques de cette circoncision de l'Ancien Testament, et ces marques vont nous donner ce que doit être la circoncision que le bon Dieu attend de nous aujourd'hui. Par la circoncision de la chair, notre Seigneur s'est dépouillé de l'honneur, puisqu'il s'est revêtu d'une chair qui a porté sur elle la marque du péché. Et par là, notre Seigneur nous apprend à pratiquer l'humilité, qui est la première marque de la circoncision spirituelle. Ensuite, comme on l'a dit, il s'est soumis à la loi. Et par là, il nous apprend la deuxième marque de la circoncision spirituelle, l'obéissance. Et enfin, par cette circoncision, notre Seigneur a connu la souffrance. Et par là, il nous apprend à accepter le mystère de la croix dans notre vie. Donc, les marques de la circoncision de la chair nous font découvrir les marques de la circoncision de l'esprit qu'il est venu fonder, à savoir l'humilité, l'obéissance et l'acceptation du mystère de la croix. Donc, voilà pour cette question de la circoncision. Alors, à cette circoncision, maintenant, est rattachée une autre question, à savoir le nom de Jésus qui lui est donné. En effet, la circoncision est un petit peu l'équivalent du baptême, donc pour les Juifs, et c'est le jour du baptême qu'on donne officiellement le nom à l'enfant. Donc c'est au moment où notre Seigneur a été circoncis, c'est en ce moment-là qu'on lui a donné le nom de Jésus, qui signifie « sauveur ». Et c'est pour cela que le 1er janvier, on fête la circoncision, et le lendemain, le 2 janvier, parce qu'on ne peut pas faire les deux fêtes en même temps, il y a la fête du Saint-Nom de Jésus. Alors saint Thomas nous dit ici que les noms que Dieu lui-même impose expriment toujours quelques dons du ciel. Le Christ, établi par une disposition de la grâce divine pour être le rédempteur du genre humain, a reçu avec raison le nom de Jésus qui signifie « sauveur ». L'ange avait indiqué ce nom d'avance, non seulement à Marie, mais à Joseph. Alors maintenant, il y a quelques objections que pose saint Thomas en disant qu'on aurait peut-être dû donner un autre nom à notre Seigneur que le nom de Jésus. Donc première objection, il ne semble pas donc qu'on a donné avec justesse ce nom de Jésus. Si les réalités évangéliques doivent correspondre aux annonces prophétiques. On verra que dans les annonces prophétiques, notre Seigneur était appelé sous un autre nom. Car les prophètes avaient annoncé un autre nom pour Jésus. Isaïe avait dit « Voici, une Vierge concevra et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Donc il semblerait qu'on aurait dû donner à notre Seigneur plutôt le nom d'Emmanuel. Et encore, appelle-le, hâtez le pillage, butinez vite. Et aussi, on lui donnera pour le admirable, conseiller, Dieu, fort, Père du monde à venir, Prince de la paix. De son côté, Zacharie avait prédit, voici un homme dont le nom est Orient. Alors, réponse de saint Thomas. Dans tous les noms appliqués au Christ par la Sainte Écriture se trouve en quelque sorte impliqué celui de Jésus qui contient l'idée de salut. Le terme de Jésus signifie sauveur et tous les autres noms se rapprochent d'une certaine manière de ce nom de Jésus puisqu'ils impliquent tous cette notion de salut. Lorsque l'on appelle Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous, on signifie la cause du salut qui est Dieu. Cette cause, c'est l'union entre la nature divine et la nature humaine dans la personne du Fils de Dieu. Car cette union a fait que Dieu fut avec nous. Lorsque l'on dit « appelle-le, hâtez le pillage, butinez vite », on indique de qui il doit nous sauver, à savoir du démon dont il a enlevé les dépouilles. Suivant le mot de l'apôtre aux Colossiens, il a dépouillé les principautés et les puissances et les a livrées hardiment. Ensuite, les noms énumérés par Isaïe, admirable, conseiller, Dieu, fort, Père du monde à venir, Prince de la paix, expriment la voie et le terme du salut. C'est en effet par le conseil et la force admirable de la divinité que nous sommes conduits à l'héritage du monde à venir, dans lequel sera la paix parfaite des fils de Dieu, sous Dieu lui-même comme prince. Quant à la parole de Zacharie, voici un homme dont le nom est Orient, elle se réfère comme le nom d'Emmanuel au mystère d'incarnation. La lumière s'est levée dans les ténèbres pour ceux qui ont le cœur droit. Donc saint Thomas, enfin en tout cas, même si on ne retient pas le détail, explique que tous les autres noms invoquent d'une certaine manière ce salut que notre Seigneur est venu exercer et qui est indiqué pleinement par le nom de Jésus. Alors, après le mystère de la circoncision et celui du Saint-Nom de Jésus, le mystère suivant, c'est celui de notre Seigneur qui est présenté au Temple, comme tous les enfants premiers-nés, à l'âge de 40 jours. Et c'est cette fête qui est solennisée le 2 février. Le 2 février ayant lieu 40 jours après le 25 décembre. Était-il convenable que le Christ fût offert dans le temple? Alors ici, deux arguments. Il y avait dans la loi deux préceptes concernant les enfants nouveau-nés. L'un d'offrir un sacrifice lorsque les jours de la purification de la mère étaient accomplis, et le second de consacrer au Seigneur tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Donc, dans cette présentation au temple, il y avait en réalité deux choses. L'offrande de sacrifice et la consécration au Seigneur de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Il convenait que ces deux préceptes fussent observés à l'égard de notre Seigneur, premier-né et fils unique de sa mère. Voilà pourquoi il est dit dans l'Évangile, « Ils portèrent l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur et pour offrir l'hostie selon ce qui est écrit dans la loi. » Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les réponses aux objections qui vont préciser un petit peu le motif de cette présentation au temple. Saint Thomas nous dit, le Fils de Dieu s'est fait homme et a été circoncis pour nous. Ce n'était pas par rapport à lui, puisqu'il n'avait pas besoin d'être purifié, c'était par rapport à nous pour pouvoir nous purifier. Pour nous aussi, il a voulu être consacré au Seigneur dans le but de nous apprendre à nous y consacrer nous-mêmes. Notre Seigneur est venu sur la terre comme modèle, et par conséquent, cette offrande qu'il a faite de lui-même à Dieu a pour but de manifester l'offrande que nous devons faire de nous-mêmes au bon Dieu. Ensuite, on présenta pour lui deux tourterelles, qui étaient l'offrande des pauvres, parce que tout riche qu'il était, il se faisait pauvre pour les hommes, afin de les enrichir de sa propre indigence. Notre Seigneur s'est fait pauvre pour nous enrichir. Alors, au moment où il a été présenté au temple, selon la loi toujours, avait lieu la purification légale de la mère. Alors saint Thomas se demande, était-il convenable que Marie vint au temple pour sa purification, elle qui pourtant était immaculée, qui était sans tache. Alors il fait observer tout d'abord, Marie, par sa nouvelle dignité, était exempte des observances de la loi. Comme elle était immaculée, elle n'avait pas à recevoir en soi cette loi de la purification. Mais puisque le Christ, son Fils, qui avait observé la circoncision et les autres prescriptions légales, voulut qu'elle accomplît le précepte de la purification pour donner l'exemple de l'obéissance, rendre témoignage à la loi et enlever aux Juifs tout sujet de calomnie, donc c'est la raison pour laquelle la Sainte Vierge a voulu être purifiée. Donc, nous donner l'exemple de l'obéissance, rendre témoignage à la loi, et puis en même temps enlever aux Juifs tout sujet de calomnie. Parce que les Juifs, ne connaissant pas sa situation exacte, n'auraient pas compris si elle avait refusé donc de suivre cette loi. Et l'Évangile en touche quelque chose en disant, quand le jour de sa purification fut arrivé selon la loi de Moïse, parole qui indique que Marie agissait par respect pour le précepte de la loi, selon la loi de Moïse. Saint Luc, chapitre 2, verset 22. Alors après ces mystères qui concernaient la naissance de notre Seigneur, les mystères qui suivaient cette naissance, nous passons maintenant une étape importante pour arriver au baptême donné par Saint Jean-Baptiste. Le but est d'arriver au baptême de notre Seigneur. Cette fête du baptême de notre Seigneur, qui dans la liturgie est solennisée le jour octave de l'Épiphanie, donc vendredi prochain. Nous allons avoir cette fête du baptême. Alors, la question tout d'abord donc du baptême que donnait Saint Jean-Baptiste. Donc, le but, c'est d'essayer de savoir quelle était la nature de ce baptême et quelle différence qu'il y a eu entre le baptême donné par Saint Jean-Baptiste et puis ensuite le baptême que nous recevons nous-mêmes. Convenait-il que Jean baptisât ? Argument d'autorité, donc tiré de la Sainte Écriture, l'Évangile, après avoir loué la sainteté de Saint Jean, ajoute « Beaucoup allaient le trouver et étaient baptisés par lui dans le Jourdain. » Saint Matthieu, chapitre 3, verset 6. « Beaucoup allaient le trouver et étaient baptisés par lui dans le Jourdain. » Alors, après l'argument d'autorité, les arguments de convenance, s'il était nécessaire que Jean baptisât, s'il était convenable au moins qu'il baptisât, c'était tout d'abord parce que dans le plan de Dieu, notre Seigneur voulait être baptisé. Et si notre Seigneur voulait être baptisé, c'était dans le but de consacrer notre propre baptême. donc convenance du baptême de Jean, pouvoir baptiser notre Seigneur, qui a voulu lui-même être baptisé pour consacrer notre propre baptême. Ensuite, deuxième convenance, eh bien, c'était une manière pour Saint Jean de le manifester, de manifester notre Seigneur dans Israël, en l'annonçant aux hommes accourus en foule pour se faire baptiser. C'est un moyen d'approcher, de faire en sorte que les gens viennent vers lui. Ensuite, troisième argument de convenance, préluder au baptême chrétien en y préparant d'avance le peuple. Donc c'était un premier baptême qui avait pour but de préparer le baptême que nous recevons nous-mêmes. Et puis enfin, quatrième but, exhorter les hommes à la pénitence. Donc voilà les convenances de ce baptême. Alors maintenant, est-ce que le baptême de Jean venait de Dieu? Alors ici, saint Thomas fait une distinction. Il va distinguer le rite lui-même et puis l'effet produit par ce baptême. Il va répondre, le rite lui-même, bien sûr, vient de Dieu, puisque c'est par une lumière intérieure que saint Jean Baptiste a décidé de faire ce baptême, lumière intérieure qui lui venait de Dieu. Mais, dit-il, l'effet produit n'était pas un effet pour autant surnaturel, comme l'effet du baptême que nous recevons aujourd'hui. C'était un effet qui touchait le corps sans atteindre l'âme. Le rite venait de Dieu, qui par une impulsion particulière du Saint-Esprit avait envoyé Jean pour donner le baptême de l'eau, ainsi qu'on le voit par ses paroles. « Celui qui m'a envoyé pour donner le baptême de l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras descendre l'Esprit. » L'effet, par contre, venait de l'homme. Ce baptême ne produisait rien que l'homme ne puisse faire. Alors ici, deux objections. Première objection, donc, on ne saurait affirmer que le baptême de Jean venait de Dieu, car aucun sacramental, dit saint Thomas, venant de Dieu, un sacramental, ce n'est pas un sacrement. Bon, vous connaissez les sacrements, il y a 7 sacrements, mais un sacramental est apparenté au sacrement dans le sens où il produit un effet en fonction des dispositions de celui qui le reçoit. Par exemple, l'eau bénite est un sacramental. Les cendres que nous recevons, le mercredi des cendres, est un sacramental. L'usage du buis bénite, c'est également un sacramental. Et donc, le baptême que Jean donnait était justement un sacramental. Et alors, donc, l'objection dit, « Aucun sacramental venant de Dieu n'est désigné sous le nom d'un homme. Parle-t-on du baptême de Pierre ou de Paul pour signifier le baptême de la nouvelle loi? Ne le désigne-t-on pas, au contraire, sous le nom du Christ ? Or, le baptême administré par Jean porte son nom, car on lit en saint Matthieu, « Le baptême de Jean est-il de Dieu ou des hommes ?» Il ne pouvait donc être établi par Dieu. Et la réponse qu'il donne, donc s'il avait un effet divin, dit saint Thomas, il n'aurait pas fallu l'appeler le baptême de Jean, mais un baptême, le baptême de Dieu, ou le baptême du Christ. Par le baptême de la nouvelle loi, les hommes sont baptisés intérieurement par le Saint-Esprit. C'est là une action propre à Dieu. Mais par le baptême de Jean, seul le corps était purifié par l'eau. Voilà pourquoi Jean lui-même affirme, comme on le voit dans saint Matthieu, « Moi, je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint ». Aussi, le baptême administré par saint Jean-Baptiste porte-t-il son nom, car rien ne s'y faisait que Jean lui-même ne produisit. Par contre, le baptême de la nouvelle loi ne porte pas le nom du ministre. Le ministre, en effet, ne produit pas l'effet principal du baptême, qui est la purification intérieure. Donc, si on l'appelait le baptême de Jean, c'est parce que l'effet produit par ce baptême était un effet qui était essentiellement extérieur, et donc produit par l'homme qui le conférait. Alors que le baptême, bien sûr, que nous recevons, le prêtre n'est que le ministre. n'est que l'instrument. Dieu est l'auteur principal. Ensuite, deuxième objection, tout enseignement nouveau de Dieu doit être confirmé par des signes. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a donné à Moïse le pouvoir de faire des miracles. C'est là aussi le motif pour lequel il est dit dans l'Épître aux Hébreux, « Notre loi annoncée d'abord par le Seigneur nous a été confirmée par ceux qui l'ont entendue de lui, Dieu rendant témoignage par des signes et des prodiges. » Or, de Saint Jean-Baptiste, on nous dit dans le quatrième évangile, « Jean n'a fait aucun miracle. » Il semble donc que son baptême ne venait point de Dieu. Donc, l'objection dit, si le baptême de Jean venait de Dieu, il aurait dû être accompagné de miracles. Parce que Dieu, lorsqu'il donne un enseignement de nouveau, il fait en sorte que cet enseignement soit accompagné par des miracles. Et la réponse qu'il donne est intéressante. L'enseignement et l'action de Jean étaient ordonnés tout entier au Christ, qui a confirmé par une multitude de signes et de miracles sa propre doctrine et celle de Jean. Si Jean avait fait des miracles, les hommes lui auraient porté la même attention qu'au Christ. Pour que les hommes prissent garde principalement au Christ, il n'a pas été accordé à Jean de faire des miracles. Si Jean avait fait des miracles, si Jean-Baptiste avait fait des miracles, les gens se seraient trop attachés à lui. Et par conséquent, ils auraient pu être détournés du Christ. Alors, pour faire en sorte que l'action de Saint Jean-Baptiste soit simplement une action intermédiaire entre le Christ et les gens qui venaient le voir, eh bien, le bon Dieu n'a pas permis qu'il accomplisse des miracles. Cependant, aux Juifs qui lui demandaient pourquoi il baptisait, il a prouvé son office par l'autorité de la Sainte Écriture en alléguant « Je suis la voix qui crie dans le désert » comme on le lit dans le quatrième évangile. D'ailleurs, l'austérité de sa vie était également une preuve de sa mission, car d'après Saint Jean Chrysostome, c'était chose étonnante de voir dans un corps humain une telle résistance. Saint Jean-Baptiste a une vie tellement mortifiée, tellement ascétique, que sa vie témoignait bien de sa doctrine, sans qu'il ait besoin d'accomplir des miracles pour cela. Alors, la question que nous venons de traiter résout la question suivante, et saint Thomas préfère quand même la développer dans un article particulier. Est-ce que le baptême de Jean conférait la grâce? L'effet propre du baptême, c'est d'effacer en nous la tâche du péché originel et de remplacer cette influence négative par la grâce de Dieu, donc par la vie de Dieu dans notre âme. Donc la question ici, c'est de savoir si ce baptême de Jean enlevait la souillure du péché originel et conférait à ceux qui le recevaient la grâce divine. L'argument d'autorité, tiré toujours dans saint Matthieu, au chapitre 3, c'est quelques versets suivants, le verset 11, 5 versets après celui qu'on avait cité tout à l'heure. Pour moi, je vous baptise dans l'eau en signe de pénitence. Donc, c'est simplement un baptême d'eau. Le baptême de Jean préparait les hommes à la foi, les disposait au baptême chrétien, les appelait à la pénitence. Mais impuissant à conférer la grâce, il montrait seulement où en était la source, à savoir auprès de notre Seigneur. Le but de ce baptême, c'était de purifier, quand même un petit peu au moins extérieurement, par la pénitence, afin d'amener les Juifs à reconnaître notre Seigneur. Le baptême de Jean préparait les hommes donc à la foi et les disposait au baptême chrétien, les appelait à la pénitence. Le Christ seul pouvait donner cette grâce aux hommes. Selon cette parole de l'Évangile, la grâce et la vérité nous ont été données par Jésus-Christ. Saint Jean, chapitre 1, verset 17. Donc la grâce nous vient de Dieu et de notre Seigneur. Saint Jean disait lui-même, « Celui que je vous annonce vous baptisera dans l'Esprit-Saint. » Ensuite, autre question que se pose saint Thomas, est-ce qu'il convenait que d'autres que le Christ reçoivent le baptême de Jean? Que le Christ donc reçoive le baptême de Jean, on le comprend, c'était dans le but de purifier les eaux du baptême dans lesquelles nous-mêmes nous devons être baptisés, mais est-ce qu'il convenait que d'autres personnes reçussent ce même baptême? Eh bien, répond saint Thomas, le baptême de Jean disposait les hommes à celui du Christ. Il était utile que le Christ ne fût pas le seul qui le reçut. Autrement, on eût pu croire que ce baptême était plus noble que le baptême chrétien. S'il n'y avait eu que le Christ à le recevoir, on aurait dit, qu'est-ce que c'est que ce baptême qu'a reçu le Christ ? On aurait pu penser qu'il était supérieur, au contraire, au baptême que nous recevons. Et puis après, l'autre question qu'on se pose, c'est la question de la durée de ce baptême. Jusqu'à quand est-ce que ce baptême de Saint Jean-Baptiste devait-il avoir lieu ? Le baptême de Jean devait-il cesser après que le Christ l'eut reçu ? Argument d'autorité, il est écrit « Jésus vint dans la Judée et l'y baptisait, tandis que Jean baptisait aussi de son côté. » Saint Jean, chapitre 3, verset 23. Donc, finalement, les deux baptisaient chacun de leur bord. Et là, l'argument de convenance, maintenant, est donné par Saint Jean Chrysostome, qui nous dit « Si Saint Jean avait cessé de baptiser après le baptême du Christ, il aurait donné à penser qu'il se retirait par jalousie ou par colère. » Et en outre, il n'aurait pas pu envoyer à notre Seigneur ceux qui venaient vers lui. Pour pouvoir continuer sa mission, d'amener les âmes à notre Seigneur, il fallait qu'il puisse continuer à baptiser. S'il ne baptisait plus, il n'aurait plus rien à faire, les gens ne seraient plus venus le voir. Mais ensuite, dans les réponses aux objections, saint Thomas précise qu'en fait, dans la réalité, le baptême de Jean n'a pas tardé à cesser après celui de notre Seigneur, parce que le saint précurseur a très vite été jeté dans les fers après le baptême de notre Seigneur. Et donc, il n'a plus pu exercer son office. Alors, dernière question, qui peut-être va de soi, mais c'est toujours bon, l'enchaînement logique pour aller jusqu'au bout du raisonnement. Ceux qui avaient reçu le baptême de Jean devaient-ils encore recourir à celui du Christ ? Dans la mesure où on a montré que c'était un baptême purement extérieur, qui ne recevait pas la grâce, qui ne communiquait pas la grâce, bien sûr, la réponse va être qu'il était nécessaire d'avoir celui de notre Seigneur. Donc, ceux qui avaient reçu le baptême de Jean devaient recourir à celui de notre Seigneur sans aucun doute, dit saint Thomas. Le baptême de Jean ne conférait ni la grâce ni le caractère. Donc la grâce, c'est la vie de Dieu dans notre âme, et le caractère, c'est la marque indélébile imprimée en notre âme par le sacrement. Cette marque qui demeure quand bien même on tombe, hélas, dans le péché mortel. Le péché mortel nous fait perdre la grâce, mais pas le caractère. Si bien que les damnés, même en enfer, qui sont baptisés, conservent ce caractère baptismal, ou peut-être même, hélas, sacerdotal. Ou de confirmation aussi, puisque ce sont les trois sacrements à caractère. Il est de nécessité que le véritable baptême soit donné non seulement dans l'eau, mais encore dans l'Esprit Saint. Comme le marque cette parole, si quelqu'un ne renaît de l'eau et de l'Esprit Saint, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Saint Jean chapitre 3, verset 5. Alors ça c'est une phrase à connaître par cœur, même si vous ne retenez pas tout ce soir. Si quelqu'un ne renaît de l'eau et de l'Esprit Saint, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce qui explique l'esprit missionnaire et vient de l'Église. Si on n'a pas le baptême, on ne peut pas être sauvé. C'est notre Seigneur qui l'a dit. Alors il est vrai que bon, la Sainte Écriture et saint Thomas ici ne dit pas tout. Il y a en plus le baptême de désir qui peut aussi parfois conférer la grâce, le baptême de sang. Mais bon, malgré tout, le baptême est nécessaire pour entrer au ciel. Saint Jean baptisait seulement dans l'eau, comme il le déclarait lui-même. Et ensuite, il précise, saint Thomas précise, saint Jean Chrysostome fait observer que le Christ, en disant à son précurseur, donc à saint Jean-Baptiste, « Laissez-moi faire maintenant », quand ce dernier lui avait dit « C'est moi plutôt qui dois être baptisé par vous », nous apprend que saint Jean fut baptisé ensuite par le Christ. Il avait baptisé notre Seigneur dans l'eau, il fut baptisé dans le Saint-Esprit. Donc une note qui précise que Saint Jean-Baptiste a reçu le baptême du Christ, après avoir baptisé lui-même le Christ. Alors après ce baptême de Saint Jean-Baptiste, maintenant le baptême qu'a reçu notre Seigneur lui-même. Tout d'abord, convenance de ce baptême. Est-ce qu'il convenait que le Christ fût baptisé ? Argument d'autorité de la Sainte Écriture. Jésus vint de la Galilée sur les bords du Jourdain vers Jean afin d'être baptisé par lui. Saint Matthieu, chapitre 3, verset 13. Et ici, Saint Thomas nous donne trois raisons de convenance. Bien que le Christ n'eût pas besoin pour lui-même d'être baptisé, il convenait qu'il le fût, donc tout d'abord, pour sanctifier les eaux par le contact de sa chair et leur donner la vertu baptismale en faveur de ceux qui devaient recevoir le baptême. Donc, en faisant en sorte que sa chair touche l'eau, ce contact a donné à l'eau cette vertu de purifier nos âmes. On voit que ce contact est très important. Notre Seigneur a fait quelques miracles sans qu'il y ait de contact, mais très souvent, on le voit appliqué, par exemple, sur un aveugle. Il prend de la boue, il applique la boue sur l'œil de celui qu'il veut guérir pour manifester que c'est par son corps, par sa chair, qu'il exerce son office de médecin de nos âmes. Et donc, dans la Sainte Eucharistie, si on reçoit l'âme et la divinité du Christ, on la reçoit par son corps et par son sang. C'est pour ça que le prêtre, à la consécration, dit « Ceci est mon corps ». Et même quand il donne la communion fidèle, il dit « Corpus Domini Nostri Jesu Christi », que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ vous conduise à la vie éternelle. Ensuite, deuxième raison, d'un autre côté, il avait pris une nature pécheresse et une chair semblable à celle du péché. Donc, la chair semblable à celle du péché par la circoncision, comme on l'avait vu tout à l'heure. Si le baptême ne lui était pas nécessaire, la nature qu'il avait prise en avait besoin chez les autres hommes. Donc, il a voulu purifier l'eau pour leur donner une vertu sanctificatrice, et il a voulu aussi purifier la nature humaine qu'il avait prise lui-même. Donc en étant purifié par cette eau, en quelque sorte, il a fait en sorte que ce soit toute la nature humaine qui soit purifiée, au moins qui ait la possibilité d'être purifiée. Il a voulu, disait Saint Grégoire de Nazianze, plonger dans l'eau le vieil Adam tout entier. Et puis troisième raison, une fois de plus, notre Seigneur est venu sur la terre pour nous montrer l'exemple. C'est un exemple vivant à suivre. Et donc, il convenait qu'il se fît baptiser pour nous encourager, par son exemple, à recevoir le baptême qu'il nous impose à tous. Alors, convenait-il que le Christ fût baptisé par Jean ? Là encore, il donne trois raisons. Il suit de ce qui précède que le Christ devait recevoir le baptême de Jean qui se conférait dans l'eau, et non le baptême qu'il a institué lui-même. Donc les motifs. Ayant reçu dès le premier instant de sa conception la plénitude de toutes les grâces, il n'avait pas besoin d'un baptême spirituel. Dans la mesure où notre Seigneur est le Dieu fait homme, il n'avait pas besoin de recevoir par le baptême la grâce, puisqu'il possédait la plénitude de la grâce en lui. Il a voulu recevoir celui de Jean pour l'approuver, donc deuxième motif, et pour conférer aux siens la grâce de la sanctification. Donc troisième raison, c'était pour conférer aux siens, à son baptême, la grâce de la sanctification, pour pouvoir nous sanctifier. Alors maintenant, a-t-il été baptisé en temps convenable ? Il a été baptisé à l'âge de 30 ans. Est-ce que ce n'est pas un petit peu tard pour recevoir le baptême ? Alors ici, on va voir ce symbolisme un petit peu de l'âge de 30 ans. Il convenait que Jésus fût baptisé vers l'âge de 30 ans, et voici pourquoi. Il recevait le baptême comme devant commencer son enseignement et sa prédication. Le premier acte public qu'il a fait, après sa vie cachée, qui a duré 30 ans, ça a été ce baptême. Donc comme il voulait commencer sa mission d'enseignement, il a voulu donc l'inaugurer par ce baptême. Il fallait pour un tel ministère un âge mûr, 30 ans environ. Et alors là, on va retrouver donc ce chiffre 30 qui est apparu donc déjà plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Joseph avait 30 ans quand il reçut le gouvernement de l'Égypte. C'est vrai que ce n'était pas une mince affaire, de gouverner toute l'Égypte. Il y a le vice-roi, le vice-pharaon. David avait 30 ans quand il monta sur le trône. Ézéchiel avait 30 ans quand il prophétisa pour la première fois. En second lieu, la loi devait commencer à disparaître après le baptême du Christ. Comme ce divin sauveur ne voulait pas être accusé de l'avoir abrogé pour n'avoir pu l'observer, il dut se faire baptiser dans un âge où toutes les fautes sont possibles. Et troisièmement, en recevant le baptême à l'âge de l'homme parfait, il nous donnait à entendre que le nôtre produit des hommes parfaits. Selon cette parole, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité d'une même foi et d'une même connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'un homme parfait, à la mesure de l'âge de la plénitude du Christ. Donc il a reçu ce baptême à l'âge parfait pour montrer que le baptême que nous recevons fait de nous des hommes parfaits. Malgré tout, il y a quand même des objections que saint Thomas pose et auxquelles, bien sûr, il y répond. Ce qui est encourageant. Le Christ a-t-il été baptisé à l'âge voulu? Comment le soutenir? Le baptême reçu par le Christ a valeur d'exemple. Or, on loue les fidèles du Christ de se faire baptiser non seulement avant la 30e année, mais même dans l'enfance. Il semble donc que le Christ ne devait pas être baptisé à l'âge de 30 ans. Réponse. On ne peut établir de comparaison entre le baptême du Christ et le nôtre. Ainsi que le remarque saint Grégoire de Nazianze, le Christ n'a pas été baptisé comme s'il avait besoin de purification ou comme si, à différer son baptême, quelque danger le menaçât. En revanche, pour n'importe quel autre homme, ce serait versé dans un grand péril que de sortir de cette vie sans être revêtu de la robe incorruptible qu'est la grâce. Et quoi qu'il soit bon de garder la pureté après le baptême, il vaut mieux, ajoute le même saint Grégoire, recevoir parfois quelques souillures que d'être privé entièrement de la grâce. Bien sûr que si on savait exactement à quel âge on devait mourir, on devrait attendre le dernier moment pour se faire baptiser, parce que comme ça on serait sûr, après le baptême, d'aller directement au ciel. Mais comme on n'est pas sûr du moment où on va mourir, mieux vaut être baptisé le plus tôt possible, afin de, malgré les quelques souillures qu'on pourrait recevoir, qu'on puisse quand même avoir droit un jour à la porte du paradis. Deuxième objection, on ne lit nulle part dans l'Écriture que le Christ ait enseigné ou fait des miracles avant son baptême. Or, n'aurait-il pas été plus utile au monde qu'il enseignât plus longtemps en commençant à prêcher dès sa 20e année ou même plus tôt? L'utilité des hommes qui était le but de sa venue requérait donc qu'il fût baptisé avant sa 30e année. Le baptême de notre Seigneur étant lié à son enseignement, il a été baptisé à l'âge de 30 ans. Mais, dit l'objection, pour que sa mission soit plus efficace, comme il est mort en plus à 33 ans, il aurait mieux valu qu'il commence à enseigner à l'âge de 20 ans. Au moins, il aurait pu, comme ça, enseigner pendant 13 ans. Et donc, il aurait peut-être pu toucher plus de fidèles. Et la réponse que nous donne est très instructive pour nous. À considérer l'utilité que le Christ procure aux hommes, n'est-ce pas par la foi et l'humilité que nous la retirons? De ce point de vue, il importe que le Christ ait commencé d'enseigner, non pas dans son enfance ou dans son adolescence, mais quand il eut atteint l'âge parfait. Cela importe tout d'abord à la foi, car le fait que son corps a grandi d'âge en âge prouve que l'humanité du Christ était réelle. Et de peur que ce progrès ne fût tenu pour imaginaire, le Christ n'a pas voulu manifester sa sagesse et sa vertu avant que son corps eût atteint l'âge parfait. Cela aussi importe à l'humilité. Nul ne doit avoir la présomption d'assumer avant l'âge parfait les honneurs d'une prélature ou les fonctions d'un enseignement. Mais ce qui est très intéressant, c'est de montrer justement que notre Seigneur nous a appris plus de choses par son humilité presque que par son enseignement. Il nous a appris bien sûr beaucoup de choses par son enseignement, mais la durée de l'enseignement était en quelque sorte moins importante que l'exemple qu'il nous a donné par son humilité. Parce que c'est vrai que c'est cette vertu qui nous ouvre aussi la voie au salut. Alors, troisième objection, n'aurait-ce pas été une preuve de la sagesse qui lui avait été départie par Dieu que le Christ eût été baptisé ou ait enseigné dans sa jeunesse? C'est en effet dans son enfance que Daniel manifesta sa sagesse. Selon cette parole, le Seigneur a suscité l'Esprit Saint d'un enfant tout jeune du nom de Daniel. À plus forte raison, cela vaut-il du Christ? Le prophète Daniel, donc, a eu ce privilège dès son enfance. Est-il qu'il montra en lui ce qui convient de loi ordinaire à tous, c'est-à-dire qu'il n'enseigna qu'à l'âge parfait? Comme le dit saint Grégoire de Nazianze, ce qui arrive rarement ne saurait être une loi de l'Église, pas plus qu'une hirondelle le fait le printemps. C'est en vertu d'une disposition spéciale due à la sagesse divine que le privilège de commander ou d'enseigner avant l'âge parfait a été départi à certains, comme à Salomon, à Daniel et à Jérémie. Alors maintenant, le lieu du baptême. Après le temps, le lieu. Le Christ devait-il être baptisé dans le Jourdain? Il a été convenable que le Christ fût baptisé dans le Jourdain pour nous faire comprendre que le baptême nous donne entrée dans le royaume de Dieu. Car par ce fleuve, les enfants d'Israël entrèrent dans la terre promise. Figure du royaume des cieux dont il est parlé dans ce texte. Celui qui ne renaît pas de l'eau et de l'Esprit Saint ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce furent aussi les eaux du Jourdain que divisa Élie avant d'être enlevé au ciel sur un char de feu. Quatrième livre des Rois, chapitre 2. Donc, convenance, le Jourdain est une image de l'entrée du ciel. Le baptême nous ouvre déjà la voie au ciel. Malgré tout, deux objections à nouveau. Tout d'abord, il semble que la mer Rouge eût mieux convenu comme le lieu du baptême. La réalité, en effet, doit correspondre à la figure. Or, le baptême a été préfiguré par le passage de la mer Rouge. Les Égyptiens n'y ont-ils pas été submergés comme les péchés sont effacés dans le baptême? La mer Rouge est aussi une image du baptême, donc dans la partie négative, à savoir que le baptême efface nos péchés, comme les Égyptiens, qui étaient une image des péchés, ont été engloutis dans la mer Rouge. Réponse: le passage de la mer Rouge préfigurait le baptême, en ce que le baptême efface les péchés. Mais le passage du Jourdain le préfigurait en ce que le baptême ouvre la porte du royaume céleste. C'est là l'effet principal du baptême et qui n'est atteint que par le Christ. Il valait donc mieux que le Christ fût baptisé dans le Jourdain que dans la mer Rouge. Et alors, deuxième objection intéressante, du point de vue nominal. Alors, c'est une objection qui concerne le nom de Jourdain. En outre, le Jourdain a été mal choisi comme lieu du baptême. Jourdain, en effet, veut dire descente. Mais par le baptême, on monte beaucoup plus qu'on ne descend. Aussi saint Matthieu écrit-il, aussitôt après son baptême, Jésus remonta des eaux. Là, saint Thomas s'amuse. Dans le baptême, donc réponse à l'objection, il y a une montée, celle qui se fait par la grâce. Mais cette montée exige une descente, celle de l'humilité. Selon le mot de saint Jacques, c'est aux humbles qu'il donne sa grâce. Et c'est à cette descente que se réfère le nom du Jourdain. Donc, importance de l'humilité. Alors ensuite, après les circonstances de temps et de lieu du baptême, la question des cieux qui se sont ouverts. Pendant le baptême du Christ, les cieux devaient-ils s'ouvrir? Saint Luc dit, Jésus étant baptisé et priant, le ciel s'ouvrit. Donc, argument d'autorité. Chapitre 3, verset 21. Puisque le baptême du Christ avait pour but de consacrer celui que nous devions recevoir, il fallait que nous y vissions ce qui se rapporte à l'efficacité de ce dernier. Les cieux s'ouvrirent pour montrer tout à la fois que la vertu céleste sanctifierait désormais notre baptême, où la foi de l'Église nous ferait découvrir les célestes mystères qui échappent à nos sens et à notre raison, et qu'un tel sacrement, appelé le sacrement de la foi, nous ouvrirait la porte du ciel fermée par le péché du premier homme. De plus, par ces paroles, Jésus étant baptisé et priant, le ciel s'ouvrit, il nous est enseigné, premièrement, que la prière nous est encore nécessaire après le baptême, si nous voulons entrer réellement dans les cieux, d'où le germe du péché, le monde et les démons concourent à nous écarter. En second lieu, que le baptême nous ouvre le ciel en vertu de la prière du Christ, comme l'insinue l'Évangile en disant « Le ciel fut ouvert, lui fut ouvert », parole qui signifie que le ciel fut ouvert à tous à cause de lui. Donc le but essentiel de cette ouverture des cieux, c'est de manifester l'effet du baptême qui consiste à justement nous ouvrir les portes du ciel. C'est là le plus important donc, qu'il faut retenir dans ce long développement de saint Thomas. Mais malgré tout, se posent encore des objections, et là j'en retiens deux. Il semble que le ciel n'aurait pas dû s'ouvrir. Les cieux ne doivent s'ouvrir qu'à celui qui, étant en dehors du ciel, a besoin d'y entrer. Or, le Christ se trouvait toujours dans le ciel, selon le mot par lequel il se désigne dans le quatrième évangile, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ce passage, donc, on avait déjà médité au cours d'un catéchisme, une autre année, où notre Seigneur, qui est sur la terre, parle du Fils de l'homme qui est dans le ciel. Quand notre Seigneur est sur la terre, il est en même temps au ciel. Donc, les cieux n'ont pas à s'ouvrir, puisque il est déjà au ciel, même quand il est sur la terre. Alors, saint Thomas répond, c'est selon sa nature humaine que le Christ a été baptisé, quoiqu'il n'eût pas besoin de baptême pour lui-même. C'est aussi selon cette nature humaine que les cieux lui furent ouverts, car selon sa nature divine, il était toujours dans les cieux. Cette remarque est de saint Jean Chrysostome. Donc c'est en tant qu'homme que les cieux se sont ouverts devant lui. Alors après, saint Thomas pose à nouveau une objection. D'accord que les cieux s'ouvrent devant notre Seigneur, mais le baptême, ça ne paraît pas être le moment le plus favorable. Il aurait mieux valu que les cieux s'ouvrissent devant, plutôt pendant la Passion, et non pendant le baptême. Les cieux auraient dû s'ouvrir plutôt pendant la Passion que lors du baptême. Le ciel, en effet, ne s'est-il pas ouvert aux fidèles par la Passion du Christ, selon la parole de l'Épître aux Hébreux, « Nous avons confiance d'entrer dans le Saint des Saints par le sang du Christ. » C'est aussi la raison pour laquelle ceux qui, ayant reçu le baptême de Jean, seraient morts avant la Passion du Christ, n'auraient pu entrer au ciel. Donc, l'objection porte en disant que avant la mort du Christ, il n'y avait pas d'ouverture possible au ciel. Le baptême de Jean n'ouvrait pas, ne communiquant pas la grâce, ne pouvait pas permettre aux âmes d'aller au ciel. Et il répond en disant que par la Passion du Christ, le ciel est ouvert aux hommes, on indique la cause universelle de l'ouverture des cieux. Il faut cependant appliquer cette cause à chacun pour qu'en fait les hommes entrent au ciel. Cette application s'est faite par le baptême. Donc c'est vrai que c'est par sa mort que notre Seigneur nous a donné la possibilité d'aller au ciel, et pour qu'effectivement nous puissions bénéficier de cette grâce du ciel qui nous a mérité sur la croix, il faut que nous soyons baptisés. Cette application s'est faite par le baptême. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, écrit saint Paul aux Romains, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Voilà pourquoi l'on mentionne l'ouverture des cieux plutôt au baptême qu'à la passion. C'est bon ? Ça va ? Alors maintenant, il reste encore trois articles dans cette question. Convenait-il que l'Esprit Saint descendît sous la forme d'une colombe sur le Christ baptisé ? Donc la présence du Saint-Esprit est de cette présence sous la forme d'une colombe. L'argument d'autorité, l'Esprit Saint, dit Saint-Luc, descendit sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Chapitre 3, verset 22. La descente du Saint-Esprit, argument maintenant de convenance, avait pour but en cette occasion de nous révéler que tous ceux qui recevraient à l'avenir le baptême du Christ avec une âme droite et sincère recevraient l'Esprit Saint. Ce que saint Jean lui-même marquait par cette parole, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Pour cela même, il convenait que l'Esprit Saint descendit visiblement sur le Christ après son baptême. Donc la présence du Saint-Esprit au baptême du Christ a pour but de nous montrer que par le baptême, nous recevons nous-mêmes le Saint-Esprit. Alors ici, je relève les objections. Tout d'abord, il semble que le Saint-Esprit ne devait pas être envoyé au Christ lors de son baptême. Le Saint-Esprit habite en effet dans l'homme par la grâce. Or, le Christ homme a eu la plénitude de la grâce dès le début de sa conception comme fils unique du Père, ainsi qu'on l'a montré à plusieurs reprises. Donc, notre Seigneur étant habité par le Saint-Esprit n'avait pas à apparaître tout à coup comme ça à l'âge de 30 ans. Réponse. Saint Thomas s'enflamme lui-même contre sa propre objection qu'il a posée. En citant saint Augustin, il est souverainement absurde, écrit saint Augustin, de dire que le Christ n'a reçu le Saint-Esprit que lorsqu'il avait déjà 30 ans. Car s'il vint au baptême sans péché, il n'y vint pas sans l'Esprit-Saint. De Jean, en effet, il avait déjà été écrit, il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Que dire alors du Christ-homme, lui dont la conception même de la chair a été spirituelle et non charnelle ? Maintenant donc, c'est-à-dire dans son baptême, il a daigné préfigurer son corps, l'Église, dans laquelle les baptisés reçoivent surtout le Saint-Esprit. Donc, la présence du Saint-Esprit, ce n'était pas pour manifester que notre Seigneur aurait reçu le Saint-Esprit en ce moment-là, mais c'est par rapport à nous-mêmes, bien sûr. En outre, pourquoi dire que le Saint-Esprit est descendu sur le Christ ? Si en effet le Christ est descendu dans le monde, c'est à cause du mystère de son incarnation, lorsqu'il s'est anéanti lui-même en prenant la forme d'un esclave. Or, le Saint-Esprit ne s'est pas incarné et partant n'a pas pu descendre sur le Christ. Donc l'objection consiste à dire, on dit que le Christ est descendu dans le monde, on dit que le Saint-Esprit est descendu sur le Christ, donc on utilise le même verbe, et pourtant le Saint-Esprit n'est pas descendu sur le Christ, comme le Christ est descendu dans le monde. Alors là, il y a une distinction à faire. Comme l'écrit encore saint Augustin, si le Saint-Esprit est descendu sur le Christ sous une forme corporelle semblable à une colombe, ce n'est pas qu'on ait vu la substance même du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas la substance du Saint-Esprit qui était dans la colombe. Cette substance, en effet, est invisible. Ce n'est pas non plus que cette créature visible ait été assumée dans l'unité de la personne divine, comme le Christ était un avec les deux natures ne faisaient qu'une. De la même manière, on peut dire qu'il y avait une unité entre la colombe et la divinité du Saint-Esprit. Ce n'est pas non plus que cette créature visible ait été assumée dans l'unité de la personne divine. On ne saurait prétendre en effet que le Saint-Esprit est une colombe, comme on soutient que le Fils de Dieu est homme en raison de l'union hypostatique. Ce n'est pas davantage qu'on ait vu le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe, de la même manière que Saint Jean l'évangéliste a vu l'agneau immolé dans l'Apocalypse. Cette vision de Saint Jean, en effet, s'est faite en esprit au moyen d'images spirituelles des corps. Tandis que la colombe du baptême, personne n'a jamais douté qu'elle ne l'ait réellement vue. Si donc le Saint-Esprit est descendu sur le Christ, ce n'est pas en vertu d'une union hypostatique avec la colombe, mais c'est parce que la colombe, qui est venue en descendant sur le Christ, symbolisait le Saint-Esprit. Donc là, le but de cette objection, c'est de montrer que la colombe n'est pas Dieu, bien sûr, et était une vraie colombe. Enfin, était-elle une vraie colombe? C'est la question suivante. Donc je ne réponds pas trop tôt. Donc c'était une colombe matérielle au moins, mais que cette colombe matérielle, il ne fallait pas la concevoir comme étant une incarnation de Dieu. Elle était simplement un symbole. Troisième objection. De plus, le baptême du Christ offre l'exemple de ce qui se fait dans notre propre baptême. Or, lors de notre baptême, il n'y a pas eu de mission visible du Saint-Esprit. Il ne devait donc pas y avoir non plus de mission visible du Saint-Esprit lors du baptême du Christ. Donc, le baptême du Christ est l'image de notre baptême. Nous, on ne reçoit pas, on ne voit pas le Saint-Esprit, donc il n'y a pas de raison qu'on le voit pour notre Seigneur. Et là, la réponse est intéressante, parce qu'elle montre l'évolution qu'il y a entre l'origine du christianisme et aujourd'hui. Selon Saint Jean Chrysostome, au début donc, du christianisme, des communications spirituelles apparaissent des visions sensibles au profit de ceux qui ne peuvent avoir aucune intelligence de la nature incorporelle. Mais ensuite, quand ces visions ne se produisent plus, on accepte la foi parce qu'elles sont produites un jour. Si donc le Saint-Esprit est descendu visiblement sous une forme corporelle sur le Christ baptisé, c'était pour que l'on crût plus tard qu'il descend invisiblement sur tous les baptisés. Donc le but de cette manifestation visible, c'est de manifester visiblement ce qui se passe aujourd'hui en nous, mais aujourd'hui d'une façon cachée, d'une façon invisible. C'est ce qui explique la présence des langues de feu aussi au jour de la Pentecôte, qui symbolise l'effet produit par le sacrement de confirmation en nous. D'ailleurs, quatrième objection, le Saint-Esprit aurait dû descendre sur le Christ non sous la forme d'une colombe, mais sous la forme du feu. Car le Saint-Esprit dérive du Christ sur tous les autres hommes. De sa plénitude, nous avons tous reçu, dit Saint Jean. Or, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, non sous la forme d'une colombe, mais sous la forme du feu. Le Saint-Esprit étant descendu sur les apôtres sous la forme du feu, il aurait dû aussi apparaître sous cette même forme au-dessus de notre Seigneur. Et alors ici, il y a tout un développement un peu long pour expliquer pourquoi la colombe. Que le Saint-Esprit est apparu sur le Christ baptisé sous la forme d'une colombe, on peut en donner diverses raisons. Premièrement, à cause de la disposition qui est requise dans le baptisé, à savoir qu'il vienne au baptême sans aucune feinte. L'Esprit-Saint, dans l'éducation, fuit la tromperie, dit le livre de la Sagesse. Et la colombe n'est-elle pas en effet un animal simple, sans aucune astuce ni aucune tromperie? Aussi est-il dit dans saint Matthieu, « Soyez simples comme des colombes ». Donc la colombe symbolise la disposition dans laquelle nous devons recevoir le baptême, une disposition de simplicité. Mais alors après, il va encore chercher beaucoup plus loin. Et il montre comment les sept dons du Saint-Esprit peuvent être manifestés par la colombe. C'est poétique, mais c'est intéressant. La colombe vit le long des eaux. Dès qu'elle aperçoit le vautour, elle plonge et lui échappe. Par le don de sagesse, les saints habitent le long des eaux de la divine écriture et échappent ainsi aux incursions du démon. Donc, une analogie entre ce qui se passe dans la vie de la colombe et ce qui se passe par ce don de sagesse. Ensuite, la colombe choisit les meilleurs grains. Et par le don de science, les saints choisissent les pensées saines comme aliment. La colombe nourrit les petits des autres animaux. Par le don de conseil, les saints nourrissent de leur doctrine et de leur exemple les hommes qui furent jadis les petits du démon, c'est-à-dire ses imitateurs. Ensuite, la colombe ne déchire point du bec. Par le don d'intelligence, les saints évitent de pervertir les bonnes doctrines en les déchirant à la manière des hérétiques. Ensuite, la colombe n'a pas de fiel. Le don de piété permet aux saints d'échapper à la colère déraisonnable. La colombe fait son nid dans les trous du rocher. Par le don de force, les saints font leur nid dans les plaies de la mort du Christ, qui est un rocher solide, car ils y mettent leur refuge et leur espoir. La colombe a comme chant des gémissements, et par le don de crainte, les saints trouvent leur joie dans des gémissements pour leurs péchés. Ensuite, troisième raison, le Saint-Esprit est apparu sous la forme d'une colombe pour une troisième raison. À cause de l'effet propre du baptême qui est la rémission des péchés et la réconciliation avec Dieu. La colombe n'est-elle pas un animal plein de douceur? Saint Jean Chrysostome le remarque. Au déluge, cet animal apparut portant un rameau d'olivier pour annoncer la tranquillité générale de tout l'univers. La colombe apparaît aussi au baptême du Christ pour nous prouver la délivrance. Donc analogie entre la colombe du temps de Noé, indiquer la délivrance de, lorsque l'eau avait commencé à descendre, et puis le baptême qui nous délivre aussi de l'esclavage du péché. Et enfin, dernière raison, si le Saint-Esprit est apparu sur le Seigneur baptisé sous la forme d'une colombe, c'est enfin pour symboliser l'effet général du baptême qui est de construire l'unité de l'Église. C'est donc avec raison que le Saint-Esprit s'est montré au baptême sous la forme d'une colombe, car la colombe se plaît à l'amour et vit en groupe. Aussi, le livre du Cantique dit-il de l'Église, « Elle est unique, ma colombe. » Par contre, sur les apôtres, c'est sous la forme de feu que le Saint-Esprit est descendu pour deux raisons. D'abord, pour montrer de quelle ferveur leur cœur bouillonnerait afin de prêcher le Christ partout au milieu des tribulations. Et en second lieu, d'après Saint Jean Chrysostome, comme quand il fallait pardonner les péchés, ce qui se fait dans le baptême, la mansuétude était nécessaire, le symbole en est la colombe, la douceur, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais quand nous avons reçu la grâce, reste le temps du jugement, la figure en est le feu. Et enfin, et je vais bientôt terminer, rassurez-vous, donc il ne reste plus que deux articles que je vais essayer d'écrire rapidement. Est-ce que la colombe était une véritable colombe, oui ou non? En fait, c'est une question disputée. Saint Thomas dit que oui, Cajetan, qui commande Saint Thomas, dit qu'on n'en est pas sûr. Donc, finalement, on n'en sait rien. Donc, article qui est résumé rapidement. Passons au suivant, au dernier. Convenait-il qu'après le baptême du Christ, le Père fît entendre sa voix? Là, c'est important parce que on a parlé du Saint-Esprit qui est manifesté au moment du baptême. Maintenant, il reste à voir la présence du Père. On lit dans le texte évangélique « Voilà qu'une voix vint du ciel disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. » Saint Matthieu, chapitre 3, verset 17.
Donc ça, c'est l'argument d'autorité. Argument de convenance, le baptême du Christ était le type et le modèle du nôtre, qui est consacré par l'invocation à la vertu de la Sainte Trinité, selon cette parole, « Allez enseigner toutes les nations en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » C'est pour cela que le mystère de la Sainte Trinité y fut révélé. Le Seigneur est baptisé, l'Esprit Saint descend sur lui sous la forme d'une colombe, et le Père fait entendre sa voix, rendant témoignage à son Fils. Cette explication montre qu'il était convenable qu'au baptême du Christ, le Père se manifestât par la parole. Donc le baptême que nous recevons, c'est un baptême, on le reçoit dans l'Esprit Saint, mais c'est un baptême qui se fait au nom de la Sainte Trinité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est la Sainte Trinité qui vient prendre possession de nos âmes par le baptême. C'est la raison pour laquelle cette présence de la Sainte Trinité était nécessaire au moment du baptême de notre Seigneur, pour manifester l'effet propre du baptême qui consiste à nous à faire de nous la demeure de la Trinité Sainte.